point sera très précisément l'articulation entre deux choses, le communisme comme état au sens de Zustand, c'est-à-dire autant au sens de état de choses, et le communisme d'autre part comme mouvement. Ce problème, à vrai dire, n'apparaît pas dans les écrits, les premiers écrits de Marx, il n'apparaît pas en particulier dans les manuscrits parisiens de 1844. Il y a essentiellement question alors du communisme comme état à venir, et il y a une sorte de débat de Marx avec les trois formes distinguées par Moses Hess dans un texte sur la philosophie de l'action et sur le rapport entre socialisme et communisme. Il y a, à vrai dire, une certaine hésitation, une certaine incertitude sur le statut même de cet état à venir qu'est le communisme. Mais il me semble que le problème ne surgit véritablement qu'avec l'idéologie allemande. En 1845, dans ce texte qui est à tous égards fondateur, sans qu'on sacrifie pour autant à la mode de la rupture épistémologique, il y a trois choses qui sont posées et qui entretiennent entre elles des rapports qu'il est parfois malaisé de clarifier. Il y a tout d'abord le communisme comme mouvement. On peut dire que c'est la thèse fondamentale par laquelle l'idéologie allemande innove relativement aux textes antérieurs. Je rappelle la formule célèbre que l'on trouve dans ce texte selon laquelle le communisme n'est pas un idéal, ce n'est pas non plus un état, mais il s'agit du mouvement qui abolit l'état actuel. La formule est très précise. Et on a là, me semble-t-il, une formulation sur laquelle Marx ne reviendra jamais. Formulation qui est très importante parce que le mouvement dont il s'agit, c'est un mouvement que Marx analyse dans l'idéologie allemande comme un mouvement de concentration du prolétariat, qui est lui-même un effet du mouvement de concentration du capital. C'est, disons, le mouvement de concentration et de centralisation de la grande industrie qui produit donc un mécanisme d'association et de réunion des ouvriers sur le lieu du travail, dans les manufactures. Et Marx pense, à partir de 1845, la relation entre la condition ouvrière, qui est celle d'un isolement des ouvriers les uns par rapport aux autres, et d'autre part ce mouvement, qui est un mouvement donc d'abolition de l'état actuel. Il va de soi que cette définition assez remarquable du communisme comme mouvement est dirigée contre le communisme utopique, qui précisément définit le communisme comme un état ou comme un idéal. Et c'est la raison pour laquelle on retrouvera jusqu'à la fin, dans les écrits de Marx, cette défiance à l'égard de toute tentative de donner du communisme une définition en termes d'état qu'il s'agirait ensuite de décréter. C'est la première idée que l'on peut trouver. La deuxième idée, c'est celle du communisme comme acte ou comme action. En effet, c'est toujours dans la même partie, c'est-à-dire la première partie qui est consacrée à la critique de Feuerbach, on trouve une définition du communisme comme acte soudain des peuples dominants. Acte soudain des peuples dominants, il s'agit bien sûr de penser quelque chose qui ressemblerait à une insurrection mondiale. Dans la mesure où dans ce passage que Marx fait, c'est qu'il met en garde contre l'illusion qu'il existerait une possibilité d'un communisme local. Donc il insiste sur le fait qu'il s'agit avant tout de conditions qui ne peuvent être développées qu'à l'échelle de l'histoire mondiale. Ce qu'il veut donc signifier, c'est qu'il y a un développement des forces productives, il y a un développement du marché mondial, et qu'il y a là des conditions sans lesquelles justement cet acte soudain ne pourrait pas avoir lieu. Donc la question peut se poser du rapport entre cet acte soudain et d'autre part le communisme comme mouvement. On peut penser que dans l'esprit de Marx en 1845, le communisme comme acte soudain est dans le prolongement ou la continuité de ce mouvement, mais les rapports sont peut-être plus compliqués, plus malaisés à définir. Mais je laisserai cette question, ce n'est pas, me semble-t-il, la plus importante. Il y a enfin une troisième idée du communisme qui, à vrai dire, est un petit peu plus discrète sur le plan de la terminologie, puisque Marx parle souvent de l'état de choses créé par le communisme plutôt que du communisme. Le communisme donc comme mouvement d'abolition de l'état actuel, le communisme comme action, comme acte soudain et simultané des peuples dominants, et le communisme comme état de choses créé par le communisme comme action. Ça fait trois choses donc. Ce qui m'apparaît important, c'est justement l'articulation entre le communisme comme mouvement et le communisme comme état de choses créé par le communisme comme action. Le communisme comme état de choses créé par le communisme comme action est le plus souvent désigné par Marx en idéologie allemande, moyennant une expression qui est celle de société communiste. Donc il parle plus souvent à ce moment-là de la société communiste pour signifier l'état de choses créé par le communisme comme action. C'est assez important dans la mesure où la façon dont il explicite cette idée de l'état de choses créé par le communisme comme action dans l'idéologie allemande ne varie pas. Et il me semble que c'est une idée qui se retrouvera dans tous les autres textes de Marx jusqu'à la fin. C'est une idée qui est assez forte. C'est une idée qui n'est pas nécessairement étayée par une analyse des contradictions internes de la société moderne. Mais cette idée, c'est que la société communiste est une communauté d'individus qui sont complets. On trouve cette remarquable formule des individus complets, toujours dans cette première partie consacrée à la critique de Feuerbach. Les individus complets, ce sont des individus auxquels il est donné pour la première fois dans l'histoire de pouvoir s'affirmer eux-mêmes. Il existe un terme un peu étrange, un terme allemand qu'il est assez malaisé de rendre en français, Selbsttätigung, que l'on traduit souvent par mise en œuvre de soi, ou par affirmation de soi, ou par manifestation de soi, qu'il faudrait peut-être rendre davantage littéralement par auto-activité ou par mise en action de soi. Et il me semble que dans la définition que Marx donne dans l'idéologie allemande du communisme comme état de choses créé par le communisme comme action, on retrouve cette idée telle un fil conducteur. On a vraiment cette idée que c'est un état de choses dans lequel le libre développement des individus associés est enfin permis. On va finalement arriver à surmonter la séparation fâcheuse et funeste entre l'individu contingent, c'est-à-dire l'individu tel qu'il est défini par les conditions de son appartenance à une classe sociale, et puis l'individu personnel, c'est-à-dire l'individu tel qu'il est défini par ses propres forces ou ses propres facultés. On va enfin pouvoir dépasser cette division et cette séparation fâcheuse, et ce serait ça, la société communiste dont parle Marx dans l'idéologie allemande. Voilà, trois choses donc qui me paraissent importantes. Et la thèse que je voudrais soutenir, c'est que cette articulation est problématique parce que Marx ne donne absolument rien qui pourrait ressembler à un moyen de passer du communisme comme mouvement au communisme comme état de choses résultant de l'action ou de la révolution mondiale. Je pense qu'il y a là un passage qui est une déduction forcée, pour dire les choses très simplement. Je pense qu'il y a un hiatus ou un saut qui, pour être constamment dénié, n'en est pas moins absolument indiscutable. Et c'est précisément ce qui fait le caractère problématique de la catégorie de nécessité historique, cette idée selon laquelle on passerait précisément en vertu d'une nécessité historique immanente du communisme comme mouvement de négation de l'état de choses actuelles au communisme comme état dans lequel les individus s'affirmeraient complètement ou en tant qu'individu complet. Je voudrais, pour illustrer le caractère problématique de cette articulation, m'arrêter à une seule idée. C'est une idée que l'on trouve à plusieurs reprises dans différents textes à partir de 1865 à peu près, après les Grundrisse, dans le salaire créé profit notamment, qu'on retrouvera dans le Capital. C'est l'idée selon laquelle le communisme réalise pour la première fois dans l'histoire humaine la propriété individuelle. Chose assez étrange et assez curieuse que cette expression. La propriété individuelle. Vous trouvez cette affirmation toujours inscrite dans un développement qui emprunte à l'opérateur dialectique par excellence, qui est celui de la négation de la négation. Dans la mesure où, par exemple, dans salaire, prix et profit, il est question de cette négation de la négation, on y parle donc de l'expropriation des expropriateurs, déjà, avant même la première édition du Capital. Et on nous dit qu'il y a une union immédiate entre le travailleur et les moyens ou les instruments de production, et que cette union immédiate va être niée par le capitalisme, qui va donc exproprier les producteurs immédiats. Et on nous explique ensuite que, justement, l'expropriation des expropriateurs va consister en une négation de la négation, c'est-à-dire précisément en une restauration de la propriété individuelle. On trouve cette formule étrange dans un autre texte qui est peut-être plus célèbre, qui est le texte du chapitre 24 du livre 1 du Capital consacré à l'accumulation primitive. Et là, on trouve des formules sur la négation de la négation qui sont très célèbres, mais je voudrais rappeler la littéralité de ces formules, parce qu'il est question, dans un premier temps justement, de la propriété privée individuelle. la propriété privée individuelle, ça veut dire qu'on a affaire à une forme sociale, ou en tout cas à des relations sociales, dans lesquelles le travailleur est propriétaire de ses propres instruments de production. Cette union immédiate entre le travailleur et ses instruments de production se trouve donc brisée, renversée, détruite par l'expropriation capitaliste. On a donc, après cette première forme sociale, une deuxième forme sociale qui est caractérisée par une propriété privée, mais qui n'est pas une propriété privée individuelle. Le texte de Marx parle d'une propriété privée sociale. La propriété privée capitaliste est une propriété privée sociale, à la différence de la propriété privée individuelle que précisément cette propriété privée sociale nie. Et Marx ajoute, il y a justement une expropriation qui est l'expropriation des expropriateurs, ceux qui ont donc exproprié les petits propriétaires de leurs instruments de production, et cette expropriation-là constitue la négation de la négation. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle rétablit, dit le texte, non pas la propriété privée individuelle, mais la propriété individuelle du travailleur, fondée sur la possession commune des instruments de production. Formule très étrange et énigmatique, cette formule selon laquelle le communisme rétablit la propriété individuelle du travailleur sur la base de la possession commune des instruments de production. Il y a dans la Vulgate marxiste une interprétation qui se fonde sur la lecture d'Engels, qui n'est pas après tout abominable, qui consiste à dire, c'est très simple, la possession commune, ça concerne les instruments de production, et la propriété individuelle, ça concerne les objets de consommation. Bon, c'est une manière de s'en tirer un petit peu à bon compte, parce qu'il me semble qu'on passe à côté de quelque chose de très important. C'est répété dans d'autres textes, on retrouve cette formulation-là, en particulier dans le texte consacré à la guerre civile en France, en 1871, où, à propos de la Commune de Paris, Marx dit... Elle entendait rétablir la propriété individuelle. Là aussi, elle entendait faire de la propriété individuelle une réalité en transformant les moyens de production en instruments au service des travailleurs associés. Voilà. Formulation, autre formulation qu'on pourrait invoquer. Bon, il y a quantité d'autres formulations chez Marx, et il y a des formulations qui font intervenir l'opérateur de la négation de négation, à partir d'un point de départ qui est différent. On part cette fois-ci de la propriété commune du sol, par exemple, de la commune primitive, qui est supposée exister au commencement de l'histoire, aussi bien chez les Romains, les Celtes, que les Indiens et les Germains. Et à ce moment-là, on déroule une autre logique. Mais ce qui m'intéresse, c'est cette idée de propriété individuelle. Parce que cette idée de propriété individuelle n'est pas possible qu'elle concerne la consommation des objets de consommation. La propriété individuelle renvoie à une toute autre chose. J'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, qu'on trouvait dans l'idéologie allemande une définition du communisme comme état de choses créé par le communisme comme action, qui était que le communisme comme état de choses était la communauté des individus complets. Qu'est-ce que c'est qu'un individu complet ? C'est un individu qui entre en rapport avec ses propres forces et ses propres facultés, de telle manière qu'il n'en sacrifie aucune. Que le développement qui est le sien n'est pas un développement unilatéral, que le développement qui est le sien est un développement total. Il fait de lui-même une totalité, ou plutôt il se produit lui-même comme totalité de ses propres forces, de ses propres aptitudes, de ses propres facultés. Si le communisme rétablit la propriété individuelle sur la base de la possession commune des instruments de production, je pense que c'est dans les mesures où la possession commune des instruments de production crée les conditions du libre épanouissement de chaque individu, c'est-à-dire les conditions de la constitution de chaque individu en individu complet. Donc les conditions de la jouissance de ses propres forces et de ses propres facultés par chaque individu. Ce qui me paraît important dans cette idée de la propriété individuelle, c'est donc que c'est une idée de départ. Ce n'est pas une idée qui est déduite de l'analyse des contradictions internes du capitalisme. C'est une idée que Marx s'est formée très tôt, dès l'idéologie allemande, à laquelle il ne renoncera jamais. Et cette idée-là me semble d'autant plus étrange qu'on pourrait, si on voulait remonter jusqu'à son origine, en trouver les premières formulations dans les textes de 1647, qui sont des textes des niveleurs de certains radicaux anglais de la Révolution anglaise, Overton en particulier, puisque il y a un texte célèbre qui est publié par Mark Pearson dans sa théorie de l'individualisme possessif à propos de Locke, dans lequel justement Overton est amené à proclamer la propriété de soi, de chaque individu, comme étant quelque chose d'absolument inaliénable et fondamental. Et je pense, aussi surprenant que ça puisse paraître, que cette idée, on la retrouve chez John Locke, qui finalement ne l'a pas inventée. Ce que John Locke a fait dans le second traité du gouvernement civil, c'est qu'il a fait de cette propriété par chaque individu de sa propre personne le fondement de la propriété privée sur les biens matériels. Mais c'est assez curieux que de trouver chez Marx une réactivation de la notion de propriété par l'individu de ses propres forces, de ses propres aptitudes ou de ses propres capacités, avec un tour de force, peut-être sur le plan théorique, qui est de retourner cette idée de la propriété individuelle de soi-même contre la propriété privée. Le geste anti-lockéen par excellence, puisque chez Locke, on a au contraire l'utilisation de cette notion de propriété individuelle pour mieux fonder l'appropriation privée des biens matériels. Et il me semble que c'est là une inspiration qui est fondamentale. Cette inspiration fondamentale, elle est antérieure à l'analyse des contradictions internes du capitalisme, et elle se retrouvera toujours. Ce qui veut dire qu'on se donne une certaine idée, on se donne donc un certain point de départ, et on est amené à s'en servir pour, en quelque sorte, mesurer le caractère plus ou moins nécessaire du développement historique. Mais cela même indique la persistance de cette idée de la propriété individuelle, indique que chez Marx, il n'y a pas de passage direct ou de déduction directe du communisme comme mouvement d'abolition de l'état de choses actuel au communisme comme état dans lequel les individus s'épanouiraient complètement. Il y a donc quelque chose qui ne relève en aucun cas de la nécessité historique immanente, quelque chose qui relève d'une déduction forcée et précisément d'un saut, et c'est la raison pour laquelle il me semble que sur cette question de l'articulation entre le communisme comme mouvement et le communisme comme état de choses, il y a tout à gagner à penser peut-être à partir de Marx, mais sur ce point-là, contre lui. Penser contre Marx sur ce point-là, ça veut dire justement ne plus penser le communisme comme état, parce qu'il est un état à venir, comme le résultat historiquement nécessaire du communisme.